Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la seconde émission que Bac FM consacre à la préparation de l'épreuve de philosophie du baccalauréat qui approche à grands pas. Hier, nous avons disserté avec Thomas Chevrier sur la notion d'art en nous demandant si l'art nous détourne de la réalité. Demain, nous accueillerons Paul Millot et trois de ses élèves pour déterminer s'il suffit de faire son devoir pour bien agir. Et aujourd'hui, avec Anne Simon, professeure de philosophie à Jules Renard, c'est la notion d'État qui va être au centre de la réflexion puisque nous allons nous demander si l'État met fin à la loi du plus fort. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de te livrer à cet exercice de dissertation radiophonique en temps contraint. Alors, l'État met-il fin à la loi du plus fort? Tel est le sujet de dissertation d'aujourd'hui. Bon, bah, de prime abord, la question ne semble pas faire difficulté. La réponse serait évidente. Les États seraient fondés pour substituer le droit à la force et assurer la protection des citoyens. Est-ce qu'avoir comme ça l'impression une réponse au sujet est évidente, est-ce que c'est un problème pour réussir ou une difficulté insurmontable pour réussir à disserter?
Oui, hein, puisque en l'occurrence là pour le sujet qui nous occupe, effectivement cette évidence cache des problèmes qui sont quand même sérieux, quoi. Et sérieux au niveau de la démocratie que l'État entend garantir. Et c'est la raison pour laquelle il convient de s'interroger justement sur cette fausse apparence, même si l'État a pour vocation, enfin on l'espère, de garantir justement l'égalité et la liberté pour tous.
Ouais. Alors c'est un terme qu'on utilise habituellement, l'État avec un E majuscule, mais c'est peut-être pas évident à définir. C'est assez tentaculaire, assez abstrait. Où commence l'État, où s'arrête l'État? Comment on peut définir cette notion?
On pourrait le définir comme l'ensemble des institutions qui...
Des institutions juridiques, politiques?
Juridiques, oui, politiques aussi, qui s'exercent sur un territoire. Et puis le gouvernement central, finalement.
Oui. Ça s'accompagne aussi de moyens, justement, pour en venir tout de suite, voilà, au deuxième temps du sujet, des moyens répressifs,
des moyens de coercition,
des moyens policiers.
Des moyens policiers, des moyens juridiques, des moyens militaires, qui sont, oui, des forces coercitives.
Et là, on voit peut-être déjà tout de suite apparaître une manière de mettre un peu de côté cette première évidence, ou de dissiper cette première évidence, c'est que l'État, s'il est là pour mettre fin à la loi du plus fort, doit lui aussi disposer, pour y mettre terme, de moyens de puissance.
De moyens de puissance et aussi des moyens de contrainte. Sachant qu'il dispose de ce qu'il appelle une légitimité de l'usage de la force, qu'il s'octroie, sous l'argument que l'État doit se défendre, hein, contre des arbitraires individuels, et donc qu'il doit pouvoir disposer de la force à cette fin.
Alors on va essayer de repréciser de manière un peu plus posée le problème ou la problématique. Est-ce que tu donnes à tes élèves un truc, une astuce, un conseil pour problématiser?
Alors oui, je leur demande déjà de regarder ce que dit le sujet, quel sens émane du sujet à la première lecture. Et après ça, je leur demande évidemment de définir les termes, bon, commencer par un premier terme et amener les autres termes à partir d'un de ces termes. Alors là, l'État ou la loi du plus fort, enfin peu importe, du moment qu'on définit tout, et puis qu'on comprend en quoi cette question pose problème. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi j'insiste, de bien entendre le sens de ce que dit la question et de réfléchir au problème que cette question pose.
Oui, c'est pas simplement une reformulation.
Voilà, surtout pas.
Qu'est-ce qui fait difficulté,
qu'est-ce qui empêche. Qui fait difficulté, voilà, et qu'est-ce qui pose problème dans cette question. Sachant que ces problèmes sont des problèmes concrets, hein, ce ne sont pas des abstractions ou des exercices rhétoriques, ce sont des vraies difficultés, hein, qui nous faut examiner.
Est-ce que tu conseilles à tes élèves de débuter leur introduction avec une accroche, par exemple, sur un sujet comme ça? On pourrait partir d'un exemple d'actualité ou pas pour étayer une thèse ou l'autre. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou...
Pas en introduction, en tout cas. Après, on peut en parler, mais je ne l'interdis pas non plus.
Ce serait trop... l'introduction est trop ramassée, trop courte pour pouvoir vraiment utiliser...
Ben, j'ai peur que ça se dissolve dans que l'accroche justement serve de prétexte à ne pas problématiser la question justement, ou plutôt que la problématisation passe à la trappe. Mm-hmm. Donc voilà, je concentre vraiment sur l'exercice sur le poser le problème. Quoi.
Donc définition des termes, des différents sens. Voilà. On pose le problème, on indique aussi des enjeux. Et ensuite, il faut partir sur la première thèse, sur la première partie. De quelle manière, du coup, tu débutes la dissertation?
Alors, pour celle-là, je débuterai sur ce que signifie la loi du plus fort. Et ce que tu as commencé à soulever au début, donc, effectivement, l'État serait là justement pour donner une alternative à cette loi du plus fort naturel et offrir par le droit les garanties de la liberté et de la l'égalité de tous. Quoi. Et puis pour ça, je me servirais de Rousseau, hein, du contrat social, mmh. et du livre en particulier, et puis du Léviathan de Hobbes, dans cet ordre, pour justement amener la question d'un État fort, qui souligne justement la nécessité de l'unité de l'État pour garantir sa force, quoi. Et puis amener, bon, petit à petit, ma deuxième partie.
Est-ce qu'il n'y a pas un présupposé dans ce sujet? C'est cette idée que, justement, s'il n'y a pas d'État, nous sommes, du coup, inéluctablement livrés à la loi du plus fort, et que donc, à l'état de nature, disons, c'est la loi du plus fort qui s'exerce. Est-ce que c'est si évident que ça?
Ben on va voir que non.
Ouais. Et donc la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle.
Oui.
C'est ça.
C'est ça.
C'est la force brutale, quoi.
Oui, dans un premier sens.
Donc sans État, nous serions des brutes.
Voilà, dans une première acception.
Ok. Donc tu as l'intention de mobiliser Rousseau et Hobbes. On te laisse mobiliser ces auteurs. Comment faut faire? Faut d'abord indiquer l'idée générale et puis ensuite la référence. Commencer par la référence et puis ensuite... Qu'est-ce que tu recommandes?
À mon sens, peu importe, du moment que la référence elle est analysée, elle est interrogée, et puis que l'argumentation est opérée. Quoi. Mmh. Bon, si on veut commencer par la citation d'un auteur ou par le résumé de sa thèse, on peut. Mais par contre, la citation ne suffit pas. Hein. Il faut évidemment et la commenter, et l'interroger, et la remettre dans... le contexte de la propre thèse de l'élève. Mmh. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier non plus qu'une dissertation, c'est une réflexion personnelle libre. Aussi, on a encore cette liberté, on va en profiter, de pouvoir justement penser par soi-même des problèmes.
Mmh. Et que penser par soi-même, ce n'est pas penser tout seul.
C'est pas penser tout seul.
C'est penser avec les auteurs.
C'est penser avec les auteurs. Les morts, les vivants.
Alors, tu commences par Rousseau?
Oui. Je commence par Rousseau, j'aurais pu commencer par Hobbes, mais je tiens à finir par Hobbes justement pour cette question d'un état fort que je vais par ailleurs critiquer ensuite. Bon, c'est pas forcément pour faire un plan dialectique, mais là, ça s'y prête un peu. Oui, on peut préciser que le plan dialectique n'est pas obligatoire, hein, il n'a jamais été préconisé par l'inspection, encore moins imposé. On y a droit aussi, il se trouve que là, pour une fois n'est pas coutume, je l'utilise.
D'accord, alors quelle réponse Rousseau peut apporter au sujet qui nous concerne aujourd'hui?
D'abord que la force ne peut pas être une loi, pas un droit, hein, et qu'elle ne peut aboutir à une légitimité, puisque on ne peut pas aliéner sa liberté, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la vendre et on ne peut pas souscrire à un contrat d'aliénation. Quoi.
C'est ce que dit Rousseau dans le contrat social, j'ai la phrase, peut-être que tu l'as aussi, « Convenons donc que la force ne fait pas droit ou qu'on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes ». La loi du plus fort, c'est la soumission à la nécessité, à la contrainte. On oui. se soumet parce qu'on n'a pas d'autre...
Parce qu'on on trouve plus fort de soi.
Ouais.
Le problème étant qu'on peut on est toujours susceptible de trouver plus fort que soi.
Et donc, il y a une instabilité de la loi du plus fort. C'est une loi qui change en permanence.
Toujours, oui.
Ouais. Il suffit que le plus fort s'endorme
pour
tomber sous la puissance et la domination de l'autre.
Ou du groupe. Donc, c'est pour ça que Rousseau compte en particulier sur l'accord des hommes au contrat social. Hein, c'est-à-dire que c'est une convention, c'est un assentiment de tous les hommes, concrètement, à se donner des lois. C'est-à-dire à substituer à la loi du plus fort, à la loi de la nature, à la loi de la jungle, comme on peut l'appeler, le droit. Hein, c'est-à-dire la force du droit, c'est-à-dire l'égalité pour tous et l'accord de tous en vue de l'obéissance à des lois et non à des hommes.
Mmh. Donc les hommes comprennent que cet état de nature, cette loi du plus fort est insupportable. Exactement. Il faut en sortir en se dotant donc par le biais d'un contrat social, d'un transfert de puissance d'un état qui possède la légitimité pour faire obéir et pour édicter des lois.
Voilà, c'est ça. La légitimité ici est essentielle, hein, puisque c'est elle qui justifie justement l'obéissance aux lois. Autrement, on n'a pas d'intérêt à aller obéir à un seul homme ou à une assemblée d'hommes arbitrés qui impose un pouvoir arbitraire.
Donc toute désobéissance à l'État serait illégitime. C'est une difficulté.
C'est
oui.
une difficulté, oui.
D'accord. Et qu'est-ce que Hobbes apporte de plus par rapport à la perspective rousseauiste?
Il y a quand même chez Rousseau l'idée d'une unité de l'État, hein, il comprend le consentement au corps social, c'est-à-dire le corps tout entier. Mmh. Donc on a ça qui revient chez Hobbes, mais il y a cette idée plus prononcée chez Hobbes de la nécessité de la force d'un État, hein, qui puisse contraindre les passions individuelles. Hein, et ce qui contraint les passions individuelles, c'est quand même la peur. Cette idée un peu de...
Donc on passe d'une peur à une peur. Il y a la peur de l'état de nature, de la mort violente, à la peur de l'État.
À la peur de l'État, oui. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a peut-être des bonnes raisons d'avoir peur de l'État.
D'avoir peur de l'État. Derrière, justement, la valorisation de la force, ça s'appuie sur une certaine conception de la nature humaine. Hobbes, sans doute, considère que l'homme est plus dangereux, pour les autres hommes, alors que Rousseau a une conception différente.
Plus positive
de l'homme.
La nature humaine, oui.
Donc au fond, notre position par rapport à l'État est révélatrice d'une certaine idée de la nature humaine. Si on veut un pouvoir fort, c'est qu'on est très pessimiste sur l'homme. Donc tu viens d'indiquer effectivement qu'avec Hobbes, il y a besoin d'un pouvoir fort, mais précisément on peut ensuite redouter cette puissance de l'État. C'est par cette voie-là que tu comptes ensuite partir vers la deuxième partie.
Voilà, deuxième partie qui justement traiterait de cette violence d'État. Alors que Weber, par exemple, Max Weber signale comme légitime, dans la mesure où l'État s'octroie cette violence à la fin de se protéger, quoi. Mmh. Hein, c'est là la seule violence légitime pour lui.
Hein. Seul l'État, effectivement, est autorisé à exercer cette violence physique.
Seul il est autorisé à exercer cette violence physique à la condition qu'il respecte lui-même les lois. Mmh. Ça ne peut pas être un pouvoir arbitraire. Mais, voilà, le problème qui se pose à partir de là, c'est où est-ce que se situe la frontière entre l'arbitraire du pouvoir et où se situent les limites de cette violence d'État. À partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer que cette violence n'est plus légitime, sachant que... se pose le problème de savoir qui est-ce qui contrôle cette violence d'État.
Tiens, donc bien la circonscrire et puis savoir effectivement qu'il a des limites. C'est peut-être la distinction qu'on peut faire entre la sécurité et la sûreté.
Et la sûreté, oui.
La sécurité, c'est l'État doit nous protéger contre les dangers, contre les agressions. La sûreté, c'est justement se protéger contre les abus de pouvoir que l'État pourrait exercer sur nous. Mais comment demander à l'État qu'il s'auto-limite?
Voilà, c'est bon. Et concrètement, c'est quand même bien des problèmes concrets qui se posent. Dans ce qu'on appelle aussi nos démocraties. On ne parle pas des pouvoirs autoritaires, mais même dans nos démocraties, on voit bien que une vraie démocratie, l'exercice d'une vraie démocratie n'est pas forcément tout à fait réel.
Et aussi, lorsqu'on augmente les moyens de puissance de l'État, je pense ici par exemple à la vidéosurveillance, mais à de nouvelles armes, à de nouveaux équipements, si jamais l'État bascule sous la domination de personnes ou de groupes qui ont de mauvaises intentions et qui n'entendent plus justement respecter la loi, respecter la volonté générale, dans ce cas-là...
Il
a tous les outils pour nous dominer et nous soumettre. Donc c'est extrêmement dangereux d'augmenter la force de l'État aussi.
Oui. Ben oui,
donc un sujet qui pose...
Qui pose des
difficultés, voilà, réelles.
Et derrière l'évidence du départ.
Alors on va voir si on peut... si elles ont en tout cas une solution théorique. Si ces problèmes ont une solution théorique, la réflexion s'oppose au réflexe. Penser, c'est ralentir, comme l'a écrit la philosophe Simone Weil. Aussi, nous vous proposons un petit arrêt récréatif, le temps de permettre à l'esprit de respirer. Et on écoute un morceau choisi par Anne, la Makhnovchina. Tu nous expliqueras aussi peut-être pourquoi ce choix, interprété par les Berruriers Noirs. A tout de suite.
Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Makhnovchina, Makhnovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine.
Nous sommes de retour avec Anne Simon pour poursuivre la dissertation sur le sujet « L'État met-il fin à la loi du plus fort ?» Alors, on vient de voir justement que l'État s'est constitué, qu'il s'est doté de moyens de puissance, mais précisément au moment où il est en état de nous protéger, il est peut-être aussi en état de nous soumettre. Là, en l'occurrence, on peut penser à des formes de tyrannie exercées par l'État.
Oui, alors il y a le pouvoir arbitraire de la tyrannie, ou ce qu'on appelle le despotisme dans un langage plus récent. Et puis il y a surtout ce qu'on appelle le totalitarisme, qui n'est pas la même chose, hein, comme le dit Arendt, comme on a fait la distinction entre un pouvoir arbitraire et le pouvoir totalitaire. Hein,
c'est une forme, un régime politique inédit.
C'est un régime politique inédé et surtout, c'est une dérive de la démocratie. Ce qui le rend particulièrement dangereux, Les rives de la démocratie qu'avait déjà pensé Tocqueville, qu'il avait redouté déjà en son temps, et qui provient entre autres de ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire une passion de l'égalité qui fait qu'on considère que le nombre finalement est plus important que les opinions individuelles, même si le nombre a tort. Ce qui fait qu'une fois que la majorité a conquis le pouvoir, de fait, elle le confisque aux minorités, de sorte que finalement, il n'y a plus qu'un avis qui prévaut, l'avis majoritaire, qui confisque la parole aux autres, alors non pas qu'ils l'interdisent, mais qu'ils l'empêchent dans le sens où, puisque cet avis n'est plus majoritaire, ces avis ne sont plus majoritaires, ben, ils ne comptent plus, tout simplement.
Donc il y a un avis qui doit valoir pour la totalité. Il n'y a pas d'extériorité par rapport à...
C'est ça. De sorte que...
C'est totalisant, ouais.
Voilà, c'est totalisant. Et ce qui est bien le problème du totalitarisme, comme son nom l'indique, hein, où on a... avènement d'un parti unique et suppression de toute opposition.
Dépersonnalisation.
Dépersonnalisation, désolation, hein, dit Arendt, c'est-à-dire isolement des individualités qui se retrouvent dans l'incapacité de s'associer et d'échanger entre eux et d'établir une pluralité.
Et cette fois-ci, c'est plus simplement une question de sécurité qui est au centre du sujet, c'est la liberté,
qui est en cause. Voilà.
Ouais. Anna Arendt, effectivement, analyse énormément, a théorisé cet état totalitaire. Elle insiste sur l'importance de l'idéologie. L'idéologie, elle dit, c'est la logique d'une idée. Tout ce qui vient s'opposer à cette logique doit être supprimé.
Voilà, doit être supprimé.
Donc, c'est la suppression de la pluralité.
C'est la suppression de la pluralité qui, pour elle, est la condition essentielle de l'exercice de la liberté, ce qu'elle appelle le pouvoir. C'est-à-dire la capacité de commencer quelque chose pour le monde, de prendre l'initiative de quelque chose de nouveau pour le monde. Sans cette possibilité de réseau entre les individus, et sans cette possibilité d'apparaître dans le monde en tant qu'individu, nous sommes menacés justement de massification, c'est-à-dire... de ne valoir non plus comme individu, mais comme nombre, comme simple élément d'une masse, quoi.
Alors, en commençant par la menace de l'État totalitaire, est-ce que tu commences par la menace la plus, on peut supposer, la menace la plus importante ? Est-ce que c'est la seule ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Ben c'est pas la seule, mais celle-là, elle est c'est celle qu'on a eu le plus de mal à vaincre, l'analyse en particulier le stalinisme et le nazisme. Le plus difficile à vaincre, justement, par le caractère systématique du totalitarisme qui investit absolument toutes les couches de la société, tant du point de vue public que du point de vue privé, et qui prive littéralement les hommes de monde.
Alors, c'est aussi paradoxal, on peut avoir l'impression qu'avec avec l'apparition de l'État, il y a une politisation de la société, alors que là, ce que critique, en tout cas dans certaines conditions, dans certaines circonstances, ce que critique Tocqueville et puis aussi Anna Arendt, c'est le fait que l'État, au fond, dépolitise les individus, s'occupe des affaires politiques et aussi sociales à la place des individus, et donc... accapare le pouvoir en l'extrayant de la société. C'est ça la menace principale.
Mais oui, de confisquer littéralement le pouvoir au peuple.
Le pouvoir, en le séparant.
En le séparant.
As-tu un autre argument pour la deuxième partie, où on commence déjà à s'orienter vers la troisième ?
Je commencerai à m'orienter.
Oui, donc là en l'occurrence il s'agit de montrer les limites de la deuxième partie, pas véritablement, il s'agit d'essayer de trouver une solution peut-être, puisqu'on voit que sans État c'est pas satisfaisant, puisqu'on est livré à l'arbitraire du plus fort, mais l'État risque de menacer notre liberté individuelle en nous massifiant, nous dépolitisant, nous faisant perdre notre liberté, donc comment faire ? On est vraiment dans l'embarras.
Alors, il y en a eu qui ont justement pensé l'option d'une société sans État. Alors, on peut distinguer plusieurs formes de ces sociétés. On a déjà l'exemple de sociétés primitives, plutôt tribales, qui sont, on peut dire, dans les sociétés traditionnelles, qui sont antépolitiques, on peut dire, dans le sens où elles n'auraient pas d'organisation étatique. Alors ça, c'est un peu ce que dit Clastres à partir de...
Un anthropologue de la deuxième moitié du XXe siècle.
Qui dit que sous cet argument, quand même, on a disqualifié un petit peu ces sociétés, comme si elles étaient privées d'État, hein, et que c'était là une insuffisance de ces sociétés-là.
C'est un défaut, c'est un manque, c'est un retard dans l'évolution.
Ça serait un retard dans l'évolution. Bon, ce qu'on peut complètement contester, hein, on verra un petit peu plus tard avec les Touaregs que ce n'est pas forcément vrai. Alors, il est des sociétés tribales qui sont effectivement antépolitiques, c'est-à-dire qui fonctionnent sur un mode hiérarchique et pas encore égalitaire. Donc, ce qui fait qu'on peut leur objecter cet argument, effectivement, du manque d'égalité. Mais par exemple, on a la société Touareg, sur laquelle je reviendrai, qui, elle, est une société tribale, hiérarchique, mais aussi anarchiste.
D'accord.
Espèce de société anarchiste, hiérarchique, un peu, quelque chose d'un peu, un peu étrange, enfin, un peu paradoxal au départ.
Dans la suite de Pierre Clastres, ce sont plutôt des Américains qui ont repris ces travaux, puisque Pierre Clastres est mort de manière prématurée, qui ont repris ces travaux. Je pense par exemple à James C. Scott, qui montre que en fait les États sont des entités récentes dans l'histoire. Ça apparaît très tardivement.
Mm-hmm.
Donc des sociétés même historiques n'avaient pas d'État.
Oui, n'avaient pas d'État, ce qui les empêchait pas de fonctionner d'ailleurs.
Peut-être une autre distinction aussi à faire entre le pouvoir et l'autorité. Il peut y avoir une autorité dans une société sans que nécessairement cette autorité ait un pouvoir justement répressif ou policier.
Oui, ce qui est très clair dans la société Touareg d'ailleurs, où celui qui a le pouvoir, alors c'est justement pas celui qui trône, c'est celui qui est dans un trou. Hein. Et justement, ce qui souligne le caractère, on va dire, relatif du pouvoir, sachant que celui qui est respecté comme chef, entre guillemets, hein, dans la société Touareg, ce n'est pas celui qui exerce une domination, mais celui, au contraire, qui est capable de parler aux autres.
Mmh.
Et c'est une société qui est extrêmement basée sur, justement, le rapport aux autres. D'abord, c'est une société nomade, et qui a dans ses principes, justement, le rapport aux autres. D'où le fait que c'est aussi une organisation plurielle, hein, qui est aussi paritaire, hein, qui accorde aux femmes un rôle essentiel. Hein, c'est aussi une société matrilinéaire, donc où la transmission se fait par la mère, et où on discute, hein, des affaires qui concernent la tribu.
Donc le terme est anachronique, mais c'est de l'autogestion, c'est de l'autogouvernement,
oui.
On se réunit, on discute.
On discute jusqu'à temps que...
De s'entendre.
D'accord. C'est-à-dire que cela, c'est aussi la règle de l'unanimité et pas de la majorité qui compte. C'est-à-dire qu'on a ça aussi dans les mires, dans les villages slaves, hein, au niveau des débats qu'on pouvait avoir au niveau de la répartition des terres, par exemple, hein, savoir comment on répartissait les terres entre paysans. On discutait 2-3 jours, on s'engueulait beaucoup, mais en tout cas, on lâchait pas le morceau tant qu'on n'était pas, tombé d'accord.
Tous peut-être poindre une difficulté, effectivement, la discussion, ça peut générer des tensions et des conflits. Alors, s'il n'y a pas l'unanimité, peut-être abstention amicale.
Alors, on opte pour la solution la moins pire.
La moins pire.
Pas forcément la meilleure. Hein, mais en tout cas, on optait sur la solution de manière unanime. Autrement, on continuait le débat. Quoi.
Alors, ce qui est intéressant à travers ces sociétés et ces exemples, c'est que ça nous ramène à des choses de la vie quotidienne, effectivement, la plupart du temps. Pour décider de choses très pratiques dans des petits groupes ou dans des communautés, on ne va pas faire appel à une autorité centralisée extérieure. On s'auto-organise. Donc, est-ce qu'on ne renverse pas finalement la tendance de la première partie? C'est peut-être l'État qui empêche le fonctionnement le plus souple, le plus normal de la vie humaine.
C'est aussi ce que disait Tocqueville, hein, quand même, quelque part, hein, que effectivement, les citoyens sont peu, d'abord, ils sont peu intéressés par les affaires de l'État central, et puis vice-versa, l'État central n'y connaît strictement rien dans les affaires locales. Il préconisait effectivement que les gens s'occupent localement d'abord de leurs affaires.
Donc là, on rentre dans des problèmes aussi qui sont d'actualité, le fait que beaucoup de gens se désintéressent de la politique parce que précisément, ils ont l'impression que les politiciens se désintéressent de leurs propres problèmes.
Oui, et puis imposent aussi des politiques qui ne les concernent pas, voire qui les desservent.
Alors on entend souvent par anarchisme, par anarchie, et c'était le sens que ça avait sous la Révolution française, avant que Proudhon se réapproprie positivement le terme, mais c'est le bazar. C'est le désordre. Est-ce que on a complètement renoncé à l'idée que on puisse parvenir à un État démocratique qui protège la population sans l'opprimer? Est-ce que vraiment un État minimal démocratique inenvisageable? Je ne sais pas comment se positionne l'anarchisme par rapport à ça. C'est penser à un État minimal ou c'est vraiment pas d'État du tout?
Ah bah c'est pas d'État du tout. C'est pas d'État du tout, l'État étant compris comme la force qui empêche justement l'exercice de la pluralité. L'anarchie considère que la seule démocratie possible, c'est la démocratie directe.
Les anarchistes seraient les vrais démocrates. Pendant l'occasion de la pause musicale, on a passé à la Makhnovchina. Tu as choisi de passer la Makhnovchina. Est-ce que tu peux nous expliquer en relation avec cette troisième partie ce choix musical?
Alors la Makhnovchina, c'est ce qu'on appelle l'armée insurrectionnelle de Nestor Makhno, qui était un paysan ukrainien à l'époque de la Révolution russe, hein, et qui a alors combattu tout le monde, on va dire, hein, les Blancs, donc les tsaristes, les Allemands, les Polonais, les communistes, enfin les léninistes, hein, les bolcheviks, qui l'ont trahi par deux fois d'ailleurs, hein, il a pu s'allier à deux reprises pour combattre les autres, mais qui l'ont trahi deux fois, voilà. Et le propre de la Makhnovchina, c'était donc de... Alors c'était une armée, au départ ils étaient 12, hein, ils étaient 12 amis... Amin Makhno.
Comme quoi, hein, quand on est voilà. Déterminé, bien.
Et ils ont fini une armée de 100 000 hommes, hein, qui étaient des bons cosaques et bien difficiles à battre. Hein, de sorte qu'ils ont réellement libéré l'Ukraine tout seul en se battant sur quatre fronts pendant 4 ans. Et la caractéristique de cette armée, c'était que c'était d'abord une armée insurrectionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pour viser que de combattre l'oppression, hein, après qu'il y avait pour destinée de se dissoudre, hein, une fois l'oppression vaincue. Et puis, à chaque fois qu'elle libérait un village, elle instaurait une organisation anarchiste. C'est-à-dire où les habitants s'occupaient eux-mêmes de leurs affaires et de déterminer quelles étaient les meilleures options pour l'organisation de leur village. Voilà. Ça se faisait sur le mode effectivement du débat, hein, et d'ailleurs l'armée, Makhno n'était chef que parce que les autres le voulaient, lui il ne voulait pas spécialement. Toutes les décisions étaient prises collégialement avec ses partenaires, hein, c'est une organisation, on va dire, horizontale qu'il permettait d'instaurer après à chaque fois.
C'est le risque aussi peut-être que dans ce type d'auto-organisation, un leader émerge et reproduise des formes de passivité. Alors comme le temps presse, je suggère peut-être quelques difficultés de la position anarchiste, l'idéal n'étant peut-être pas, en tout cas pratiquement, de ce monde. Si, critique habituelle qui est formulée, justement, quelqu'un veut exercer sa force contre l'autre dans une société où il n'y a pas d'État. Que fait-on du délinquant? Que fait-on du criminel lorsqu'il n'y a pas de police, etc.?
C'est une question qu'ils n'ont pas résolue, hein, qu'ils ont posée. Hein. Alors, ils ont quand même pris l'option de anti-punitive, hein, on va dire, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, on ne punit pas, ce qui reprennent un peu l'idée de Nietzsche selon laquelle le châtiment ne répare rien du crime. Et donc, ils ont tendance à considérer, Bakounine et Proudhon en particulier, que, ma foi, le délinquant, c'est un malade. Donc, il faut soigner de préférence plutôt que punir. Et puis, il y a cette solution quand même un peu étrange qui fait qu'on peut aussi être interné en psychiatrie plutôt que incarcéré. Enfin bon, le résultat n'est pas forcément meilleur, quoi. Et puis, il y a aussi l'option d'exclure de la société celui qui refuse la société, mais en même temps, on sait bien que l'exclusion est génératrice aussi de délinquance à son tour.
On voit bien que nos États n'ont pas aussi la solution que la prison, où il peut produire peut-être plus de délinquance qu'elle ne contribue à la diminuer.
Mais en tout cas, les réflexions anarchistes sont importantes à cet égard-là, parce que ce sont en l'occurrence celles qui ont permis justement que le droit
se développe,
interroge ces questions, qui sont quand même les plus difficiles. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait de celui qui refuse la société, qui refuse les autres, et qui veut s'imposer lui, et qui fait aussi qu'on a pu réfléchir à protéger la société et aussi protéger le délinquant.
Alors on arrive au moment de notre conclusion. Comment conclure quand finalement on arrive sur cette dernière position anarchiste, mais on en voit aussi les limites? Comment conclure quand finalement on n'arrive pas à une solution qui est complètement satisfaisante, à une réponse qui n'est pas complètement satisfaisante?
On peut le dire.
On peut le dire, oui.
On peut le dire, on a réfléchi et puis on n'a pas forcément abouti. Voilà, et ce sont des questions qui sont encore à travailler, parce que ce sont les questions aussi les plus difficiles à résoudre, et que on peut laisser ouvert aussi des innovations possibles en matière et philosophique et politique.
Donc reconnaître modestement les limites de notre réflexion, c'est plus une preuve de sérieux que qu'un manque ou une défaillance ici.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Anne, de nous avoir permis de comprendre tout à la fois la vérité d'un lieu commun sur l'État, mais aussi de nous avoir donné des impulsions et des outils théoriques pour ne pas nous laisser dominer et soumettre par celui qui serait censé nous protéger. Si jamais l'État voulait nous imposer le silence, nous espérons à Bac FM que le rock et le métal seraient toujours plus forts que lui. Longue vie à la philosophie et longue vie au rock, qui ne doit pas mourir. Quant à l'État, on vous laisse libre de juger ce qu'il faut lui souhaiter selon vos analyses et réflexions. Allez, salut !